retard. Les états de privation de la vie m'ont toujours renseigné beaucoup mieux sur la pléthore de ma puissance que les crédences petites bourgeoises de la bonne santé.
Et tu cherches un
Un emploi de chanteur d'opéra.
Chanteur d'opéra, c'est une belle profession et tu es intéressé par l'opéra?
Non, pas vraiment, non.
Non, par le chant, tu sais chanter?
Non plus, non.
Non, tu connais les autres tu... Non,
non, non, non, non.
Une guerre, il est valant, jeune guerre.
Vous avez raison, mais hâtez-vous.
Il y avait des bois d'autre promenade.
Cela est vrai, mais faites promptement, maudite galère.
Ah, cette galère lui tient au cœur.
Une histoire pas comme les autres. Une histoire qui vous sera contée en musique et par les instruments de l'orchestre.
Bonjour et bienvenue à votre émission du mois de mai de Scène de vie, vie de scène, l'émission qui prend son temps. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Oui, une émission essentiellement musicale qui prendra le temps de vous parler de plusieurs sujets, puisque le mois de mai est quand même un mois de mai où on a envie de nous laisser surprendre par les notes et la musique innovante.
Et bien justement, ce sera l'occasion de parler du festival L'Oreille du Cyclone, festival de jazz et de musique surprenante.
Musique surprenante et innovante, oui, deuxième édition de ce festival sur Évreux qui s'est aussi associé et complété par l'édition, la troisième édition de Jazz à Louviers.
Nous aurons l'occasion aussi d'échanger avec notre invité, Mathieu Tessonnière. Bonjour.
Bonjour.
Oui, Mathieu Tessonnière qui se présentera, instrumentiste, musicien et également enseignant au CRD d'Évreux.
Nous parlerons également du spectacle Spartacus qui est proposé sur la place du marché de la Madeleine.
Sous la halle.
Sur la halle.
Alors oui, spectacle extérieur, mais un vrai spectacle que je qualifierai de péplum lyrique sous la halle du marché de la Madeleine qui prendra là un aspect de salle de spectacle.
Nous parlerons également de l'agenda.
Agenda du mois de mai, bien, bien chargé, de quoi se divertir, sortir et se laisser surprendre.
Nous ferons un petit tour aussi du côté de la musique du monde.
Oui, notre nouvelle rubrique de l'émission avec, je crois, là une escapade vers l'Asie et la Chine.
Durant cette émission, Timothée aussi nous accompagnera. Bonjour.
Bonjour à tous.
Mais tout de suite, pour commencer, nous vous proposons sans plus attendre la traditionnelle prise de son, un moment de vie.
Alors là, tu sais, ton micro pointe tout sauf.
C'était notre ambiance sonore du mois. Nathalie,
oui,
que
là,
venons-nous d'écouter?
Alors, micro, j'ai laissé traîner le micro dans la classe d'improvisation et de musique amplifiée de Mathieu Tessonnière, notre invité de l'émission de ce mois-ci. Voilà, ils sont entre 11 et 17 ans et ils suivent une formation classique ou instrumentale au CRD. Et une fois par semaine, ils se retrouvent pour une heure trente de groupe à jouer ensemble. Là, comment dans des individualités ou des parcours pas individuels de formation ou d'apprentissage d'un instrument, là, on apprend à jouer ensemble. Alors Mathieu, tu peux un petit peu rebondir. Moi, j'ai vraiment pour donner l'ambiance, hein, parce qu'on l'a senti aussi. Moi, je te redonne la parole. Il faut savoir que Mathieu est sur son... sur sa chaise en train de diriger, mais la chaise est pratiquement un prétexte parce que tu n'arrêtes pas de bouger, de vivre vraiment la musique que jouent tes élèves. C'était assez surprenant et très agréable en tout cas, très vivant.
C'est toujours très intéressant ces regards extérieurs comme ça, parce que c'est vrai que je ne me rends pas vraiment compte que je ne peux pas rester sur place. Mais oui, en fait... disons que ces élèves-là, ils sont sur une pratique d'ensemble qui est axée autour des musiques amplifiées. Donc, on reviendra un petit peu sur les termes, mais voilà, globalement, l'idée, c'est que c'est un petit peu comme de la musique de chambre en classique. Il n'y a pas de chef d'orchestre, véritablement. Ils ont chacun leur feuille de route. Ils savent ce qu'ils ont à jouer individuellement. Et le travail est vraiment un travail d'aller vers l'autre au niveau de l'oreille, de l'écoute et de la place qu'on se donne dans le son pour construire ensemble. Donc c'est vraiment une idée de partage et puis de mise en œuvre des compétences techniques et des problématiques instrumentales pour arriver à aller vers l'autre et à adapter au niveau de l'instrument pour pouvoir faire les choses ensemble comme il faut.
Bien, ben on continuera sur cette présentation de cette classe au moment de votre interview.
Et le thème du mois, en tout cas le thème prépondérant
du mois de mai, oui, c'est
le jazz, la musique innovante et l'oreille du cyclone, notamment le festival de jazz qui va donc se tenir entre Louviers et Évreux.
Voilà, du 18 mai au 29 mai, entre Évreux, Louviers, Gravigny, Le Vaudreuil, une proposition éclectique de musique dont on va dire l'axe est le jazz, mais sur ce jazz se greffe toute la vie musicale d'aujourd'hui et ce qu'on appelle, voilà, on va innover sur cette matière. Donc c'est le mois de mai, on a envie de sortir, d'aller d'une salle à l'autre ou d'un bar à l'autre et puis d'écouter des sons peut-être qu'on n'a pas l'habitude d'entendre quotidiennement.
Parce que le jazz, ça englobe tout un secteur musical qui part de ce qu'on peut appeler la tradition jazz qui commence à remonter maintenant, à des créations très très contemporaines. Il y a le jazz également, on verra durant la programmation, la présentation de la programmation, qu'il y a des dominantes. Sur Louviers, on aura aussi du jazz latino qui est
plutôt une programmation latino, cubaine, brésilienne.
Qui est un style à part entière, pour ainsi dire. Donc voilà, ça englobe beaucoup de choses tout de même.
C'est toute une histoire, hein, ça fait partie de l'histoire de la musique. Là, et Mathieu, n'hésite pas à intervenir parce que
c'est tout à fait vrai. Ce que disait JC est tout à fait vrai, c'est-à-dire qu'on a vraiment des choses qui sont très très dans la tradition, donc il n'y a pas dans les années 1900-1910 vraiment les racines du jazz jusqu'à aujourd'hui, sachant que ce qui définit peut-être le mieux le jazz, c'est sa capacité à mélanger les choses et c'est une musique encore plus que d'autres qui doit vraiment son identité au métissage. Et actuellement, finalement, ce qu'on appelle le jazz est généralement, ou en tout cas ce qu'on appelle le jazz et les musiques innovantes actuellement, est toujours quelque chose qui est à la croisée de vraiment plusieurs chemins. Et on pourra le voir avec aussi bien les projets de Julien Louraud que le Surnatural ou Médéric Collignon, bien sûr.
Également dans la programmation. Justement, peut-être pour commencer avec la programmation ou... Voilà, programmation éclectique, hein, moderne, résolument axée sur l'innovation et la création. Donc, aux côtés des plus grands, tels que Yaron Herman Trio, qui sera présenté à Gravigny à la Maladrerie, ou Médéric Collignon ou Tania Maria, cette programmation laisse place vraiment à des groupes émergents, à la jeune génération de musiciens, que l'on sent vraiment bien dans son temps et dans sa musique. C'est une musique, justement, nourrie, enrichie, d'une large culture musicale. Voilà, la jeune génération, on sent qu'elle a été au concert, qu'elle a écouté du punk, du funk, du groove, et qu'elle apprend par divers moyens. Ah, voilà, il y a aussi les rencontres et on est une génération, on voyage plus, on se déplace plus et on rencontre plus. Donc tout ça fait la musique d'aujourd'hui et dans ce festival, on sent vraiment cette énergie et cette dynamique. Alors, je ne pourrais pas présenter la totalité des 21 groupes qui sont proposés du 18 au 29 mai à Évreux, Louviers et Vaudreuil, mais quelques titres. Comme ça, et quelques logiques. Comme je dis, ça sent le groove, ça sent aussi l'aspect scénique. Et là, je pense au Surnatural Orchestra, où on a un collectif de 19 musiciens. Certains ont pu le voir peut-être au mois de mars cette année. Ils sont venus présenter un spectacle-concert Profondo Rosso sur un film d'horreur de Dario Argento. Magnifique, impressionnant dans on va dire la photo sur ce film. Oui. Un très gros travail de photo. Et le Surnatural Orchestra avait réécrit, vraiment retravaillé, non pas la musique, mais vraiment la dimension, la construction du film autour de leur présence.
On les retrouvera encore dans une forme particulière, notamment le Sound Painting.
Ouais.
On en reparlera
à un moment, et Mathieu qui, justement, dans son profil, dans votre profil de professeur, vous avez pratiqué notamment ces ateliers de sound painting.
Oui, parce qu'ils ont de grosses vertus pédagogiques, et puis aussi parce que c'est quand même très très rigolo à faire.
Oui, oui. Pour l'avoir pratiqué, c'est vrai. Et puis, c'est vraiment accessible pour tout à chacun.
Oui, voilà. C'est un des gros intérêts de cette pratique, c'est que c'est vraiment quelque chose qui est abordable par n'importe qui soit musicien ou non, qu'il ait déjà fait de la musique ou non, parce que ça fait appel à des perceptions qui sont complètement hors théorie musicale.
Bien, donc on égrène un peu les sujets, mais peut-être une petite pause musicale avant de reprendre la programmation du festival.
Et cette pause musicale donnera lieu également à une des annonces, Steve Reich, Clapping. Steve Reich,
Clapping de Steve Reich.
Alors, 2-3 petits mots là-dessus.
Alors, cette pièce-là, moi je l'aime beaucoup parce qu'elle illustre, je pense, assez bien le travail qu'on essaye de faire avec ses élèves et puis globalement, peut-être plus globalement, ouais, une manière d'aborder les choses, en tout cas qui m'est chère. Ça, c'est en fait ce qu'on a entendu, c'est une très très libre adaptation d'une pièce de Steve Reich qui s'appelle Clapping Music, qui fait partie vraiment des premières pièces qu'il a pu composer. Donc c'est, on va dire, plus ou moins l'ambassadeur de ce qu'on a appelé la musique répétitive, la musique minimaliste aux États-Unis. Et il a toute la première partie de sa carrière, il a travaillé sur le déphasage et le décalage. Et en fait, si on écoute cette pièce-là, il y a un petit motif rythmique qui est joué par tout le monde au début. Ensemble, et puis au fur et à mesure la guitare se décale et va jouer le motif en se déplaçant régulièrement à des intervalles réguliers pour finir par revenir et rejouer en même temps que tout le monde le motif du début. Donc c'est une sorte de tour sur soi-même, de boucle, de décalage et de déphasage. Et donc à la base ça se joue en tapant dans ses mains, et donc là l'idée c'était de se l'approprier avec l'instrumentation et l'esthétique des musiques amplifiées. Donc voilà, ça donne ce résultat que vous avez pu entendre.
Ok, fort intéressant d'avoir un petit Led Zeppelin solo, oui. À l'intérieur du Steve Reich.
C'est-à-dire que
ça s'intègre vraiment très bien.
Bah oui, en fait, à force de travailler ce petit motif-là, on s'est rendu compte que c'est quelque chose qui avait été énormément repris dans l'histoire des musiques amplifiées. Et donc, le clin d'œil à la fin, en faisant la citation de Cashmere, puis la citation de Wake Up de Rage Against the Machine, paraissait complètement logique. Il y a une autre citation qu'on aurait voulu faire, mais qu'on n'a pas pu, qui est Heat of the Summer, sur un album qui s'appelle Rated R de Queens of the Stone Age. Très très bon groupe de rock actuel, qui pareil reprend complètement ce motif-là en le rallongeant un petit peu. Mais donc voilà, l'idée c'était de faire un petit clin d'œil en montrant que ce genre de rythmique qui avait pu être utilisé en musique contemporaine dans les années 60 a rejailli de plein de manières différentes aussi dans les musiques amplifiées, dans le rock.
Ça rejoint ce métissage, cette nourriture musicale, vraiment. Mais je fais une aparté dans l'échange, mais sur justement ta classe de musique improvisée, ces idées, ça vient, elles sont communes, elles sont partagées, elles viennent des élèves, c'est eux qui la
disent. Oui,
disent,
ils
tiens,
font tout tout seul. Tout je tout n'existe seul. Pas, je ne fais rien. Non, en fait, par rapport à ce morceau-là, on l'a vraiment abordé comme un exercice technique de travail, de cohésion de groupe dans un premier temps, et après l'idée, ça a été comment, à partir d'un exercice technique qui peut paraître un peu stérile comme ça, on dégage une forme et on crée une composition. Et on a notamment utilisé le sound painting pour en arriver là, sur le travail qu'on aura pu entendre, qui est une sorte de crescendo géant tout au long de la pièce, par exemple.
Sound painting, on y reviendra. Alors,
on se reprendra un petit moment, bien entendu, avec Mathieu Tessonnière pour échanger d'ici un petit instant. Revenons sur
l'oreille du cyclone.
Deuxième,
voilà,
festival d'ailleurs, l'oreille du cyclone.
Deuxième édition, oui, sur Évreux. Hein, et troisième édition pour Jazz à Louviers, parce que je rappelle, cette édition est complétée de par la programmation du festival Jazz à Louviers qui se tient là pour la troisième année. Alors justement, à Louviers, une programmation plutôt latino, puisque le festival commence le 18 juin par un concert d'ouverture.
Mais
Merci Mathieu. C'est l'esprit vacances, c'est le soleil, c'est les températures bien trop élevées pour la saison qui me font basculer d'un mois en avance. Donc oui, je disais, sur Louviers, début le 18 mai, avec un concert de l'école de musique de Louviers et une rencontre un peu jam session. Et surtout Tania Maria, grande voix brésilienne, qui sera présentée dans le moulin de Louviers, où là on est sur une forme plutôt traditionnelle, d'une jazz latino. Mais aux côtés de cela, il y aura le concert de Julien Loureau, saxophoniste et aussi multi-instrumentaliste, vraiment.
Oui.
Il touche à tout. Il touche à tout, il aime les voyages, il aime les rencontres. Et là, il a fait la rencontre avec le groupe cubain de Rumba Biata. Donc, je sens Mathieu qui voulait rajouter.
Non, c'est simplement pour dire que c'est Oui, Julien Louraud est vraiment un artiste qui a su aborder, finalement, dans une carrière qui n'est pas si longue que ça, parce que les premières expériences sur lesquelles on a pu le voir datent du milieu des années 90. Un mec qui est encore très très jeune et qui est non seulement un saxophoniste vraiment hors pair et très très virtuose, mais qui a toujours défendu des esthétiques très assumé et très singulière au travers de ses projets, que ça a été au début de sa carrière avec le Groove Gang, dans lequel il y avait Magic Malik notamment, et puis beaucoup d'autres gens qui ont tous eu des carrières vraiment d'enfer. Comme après, voilà, ses projets solo, The Rise, et puis les choses qu'il a pu faire avec Boyan Z, jusqu'à le projet avec Rumba Biarta. Donc c'est quelqu'un qui va vraiment à chaque fois sur les projets au fond des choses et qui sait aussi très bien s'entourer.
Ah non, c'est, je pense que c'était aussi le fait d'être voyageur, curieux, même de la rencontre. Sur cette édition, donc sur Louviers, également des concerts hein, dans de nombreux bars, des scènes ouvertes dans la ville, toute une animation proposée pour faire sentir aux habitants l'esprit et l'existence de ce festival.
Ce qu'on peut appeler le off en terrasse.
Le off en terrasse, les scènes ouvertes. Puis l'idée aussi que tout à chacun peut s'approprier cette musique et en se promenant dans les rues, en faisant les courses le samedi et tomber sur un groupe, deux groupes, trois groupes et ça s'enchaîne.
Ce qui d'ailleurs va très très bien avec la citation de Jean-Paul Sartre qui disait que le jazz c'était comme les bananes, ça se consommait sur place.
Oui. Donc du direct.
C'est ça.
Sur Évreux, souffle de modernité et d'innovation, hein, comme je vous le disais, avec notamment Médéric Collignon, présenté à l'abordage et son jus de bosque. Alors Médéric Collignon, trompettiste, hein, révélation jazz 2010, oui. On va dire sacré. Hein, révélation
oui,
2010.
Ça fait quand même longtemps.
Parce que
qu'il
ça fait longtemps qu'il est quand même sur les scènes. Et là, il gravit une nouvelle fois donc la montagne Miles Davis. Je crois qu'il avait déjà travaillé un album sur lui, le Porgy and Bess.
Oui, exactement. Oui.
Et donc là, il rend hommage à cet emblématique album qui est Bitches Brew.
Bitches Brew. Oui.
Donc évidemment, revisiter, travailler, mâcher, avaler à la sauce. À la sauce Médéric Collignon, c'est-à-dire là, un artiste, un musicien, pareil, nourri de diverses influences musicales, du punk, du groove, du nirvana.
Oui, qu'on peut qualifier d'entier, oui. Médéric Collignon, qui est vraiment un personnage, quand on le rencontre, on voit, on prend bien la mesure du truc, quelqu'un de très charismatique et de vraiment sans concession dans ses choix, donc... Là, c'est vrai qu'il y avait un sacré défi de reprendre cet album-là parce qu'il a vraiment fait date et qu'il est jugé par les uns inaudible et par les autres vraiment fabuleux, mais qui en tout cas esthétiquement est tellement riche et tellement particulier qu'il est vraiment difficile d'arriver à en tirer quelque chose et à se l'approprier. Et il l'a fait avec énormément de facilité, que ce soit au niveau de la production, que des choix esthétiques et des compositions des morceaux. C'est en même temps très très digeste et en même temps on retrouve vraiment tout l'univers de cet album de Miles Davis qui a vraiment été, on peut dire, révolutionnaire, comme tous les albums de Miles, mais celui-là peut-être encore plus.
Ouais, c'est aussi un album, je me rappelle avoir vu une chorégraphie de Anne-Theresa de Kersmaeker qui s'en était emparée également. Donc au niveau de la rythmique, la danse, la chorégraphie, c'est vraiment un album qui parle à tout le monde.
Oui, c'est très très riche d'évocations parce que ça sort des chantiers battus, donc forcément ça fait tomber les barrières de ce qu'on peut connaître et du coup on est obligé de se laisser porter et... On peut pas avoir une écoute prédictive de ce qui va se passer parce que c'est très improvisé.
Oui, très improvisé. Et vraiment purement dans l'esprit du festival. On enchaîne et on se retrouve. Donc, je citerai Journal Intime aussi, un trio de cuivres qui rend hommage à Jimi Hendrix, donc avec trompette, trombone et basson. Donc, c'est quand même particulier.
Que l'on pourra voir
innovant,
au Vaudreuil.
Qu'on pourra voir au Vaudreuil. Je ne vous redis pas toutes les dates qu'on retrouvera sur le site internet et le lien avec le site du festival. Totem, moyenne d'âge de 20 ans, une maîtrise technique incroyable pour cette jeune formation qui nous propose un jazz un peu fusion. Fusion électrique, classique, mélangée. C'est d'ailleurs un groupe, un jeune groupe qui monte en région.
Oui, qui sont tous rencontrés au conservatoire d'Évreux,
de Rouen,
pardon,
de
qui
Rouen.
Sont vraiment de cette génération, ouais, des gars qui ont une vingtaine d'années. C'est rigolo parce que moi je suis un tout petit peu de la génération d'avant où nous on montait tous des ensembles de jazz, bebop, hard bop, vraiment jazz des années 50, 60. Et là on se retrouve avec voilà, ce décalage de 20 ans qui continue toujours de rappel à la génération du dessus où maintenant voilà, tous les kids de 20 ans qui font du jazz ont à cœur de refaire de la fusion et du jazz rock des années 70. C'est assez rigolo.
Ouais. C'est bien, c'est une transmission intéressante. Et puis, les improvisations aussi lâchées du Surnatural Orchestra le samedi 28 mai. Donc, dans Évreux, le Surnatural est un collectif de 19 musiciens, mais qui peuvent avoir des formations en solo, trio, qui s'éclateront dans la ville, alors dans les rues d'Évreux, mais aussi dans des lieux plus intimes, improbables ou inconnus. Je pense à un concert qui se passera au temple protestant d'Évreux. Voilà, c'est un moyen aussi de connaître des endroits ou de faire connaître des endroits peu connus. Et le Surnatural se retrouvera après pour un concert. Et le dimanche, en lien aussi avec la radio Principe Actif et son Jardin des Cultures, ils donneront un concert associé avec des amateurs, puisque le Surnatural Orchestra travaille en atelier et en stage avec des musiciens, des jeunes, la technique du sound painting. Et tout ce monde-là se retrouve le dimanche lors du Jardin des Cultures pour présenter le travail mené. Donc, petit rebond qui est bonne transition qui nous fera parler du sound painting.
Je propose une pause musicale et nous reviendrons juste derrière avec Mathieu Tessonnière et le sound painting pour le coup. Avec un titre choisi du Surnatural Orchestra, Petite musique intérieure. Très raide. Hein. C'était le Surnatural Orchestra avec Petite musique intérieur.
Oui, j'avais choisi quelque chose d'un petit peu plus posé, qui est complètement, enfin, pour montrer aussi la diversité du répertoire du surnatural et son éclectisme. Après, quand on le retrouve en collectif Big Band, on est entre musique traditionnelle, chant, groove, enfin, c'est extrêmement varié.
Et nous arrivons au moment où nous, en principe, nous recevons notre invité qui s'est déjà très, très bien installé oui. dans le studio. Donc,
c'est une émission où notre invité, là, suit le déroulé de...
Voilà, et là, pour le coup, Mathieu a pris, vous avez pris toute votre place dans l'émission dès le début. C'est le moment où on va échanger un petit peu sur votre parcours de musicien et également sur le sound painting qu'on souhaitait
aborder, expliquer, faire connaître. Puisque quand on dit sound painting, à quoi on peut penser? Donc,
Alors vous connaissez bien le sound painting?
Oui, parce qu'en tant qu'improvisateur et en tant que pédagogue, c'est une source assez inépuisable et donc forcément ça fait quelques années que je m'y consacre et que je fais des stages régulièrement pour en apprendre un petit peu plus et puis surtout j'essaie de beaucoup le manipuler et l'utiliser avec les élèves pour qu'ensemble on arrive à en retirer des choses et à progresser parce que c'est quelque chose qui demande à être extrêmement travaillé.
Alors, nous l'avait présenté un petit peu comme l'espéranto de la façon de diriger la musique. C'est ça, on est à peu près sur ces notions-là.
Il y a quelque chose de cet ordre-là, dans la mesure où c'est un langage gestuel. En fait, pour reprendre une analogie, on pourrait comparer ça au jeu du chef d'orchestre qu'on fait avec les petits en centre aéré ou peu importe, vous voyez. L'idée, c'est que c'est voilà, un langage gestuel, donc forcément, il est international. Il a été mis en place, je crois, au milieu des années 80, au début des années 90, par Walter Thompson, un compositeur américain de musique plutôt contemporaine, qui était dans une recherche de langage et de syntaxe.
Et alors, quelle est la différence avec un chef d'orchestre classique? Parce que le chef d'orchestre, c'est une fonction qui existe... C'est une façon de diriger un orchestre. Quelle est la différence avec le sound painting?
Ça, c'est une grande question. La première chose, c'est que en sound painting, on va utiliser un support écrit pour se donner...
En écriture musique ou...
Alors non, justement, on va avoir des choses, des notes qu'on va écrire, ou alors des notes, des petits bouts de texte, pas des notes de musique, vous voyez. J'essaie d'être plus clair. Donc on va éventuellement avoir une partition qui va être plutôt constituée de petits mots qui illustrent certains passages qu'on a envie de travailler et on va, avec ce langage-là, construire la musique en direct. C'est-à-dire que l'idée, c'est que c'est un langage de création artistique en temps réel. C'est surtout ça. Par rapport à un chef, on va dire, plus conventionnel, que ce soit pour du big band ou de la musique classique, où on a vraiment un conducteur, qui est donc une partition avec toutes les parties de tous les instrumentistes, qu'on file et on est, on va dire, une sorte de point commun à tous les musiciens qui permet à tout le monde de jouer ensemble, soit en organisant une battue, soit en amenant tout le monde par des gestes, comme on peut voir Karajan qui fait ça très bien, enfin voilà, ou Barenboim, les grands chefs classiques, arriver à emmener l'orchestre dans des intentions de jeu très particulières en saisissant sur le moment ce qui se passe, mais par rapport à une matière sonore qui est déjà écrite et existante et qui a été répétée en tant que telle. En sound painting, on travaille vraiment sur une matière sonore qu'on ne connaît pas à l'avance.
C'est vraiment l'improvisation. C'est créer finalement une direction à l'improvisation.
Voilà, c'est ça. Et donc, c'est un sacré challenge, mais en même temps, c'est très, très intéressant.
Alors, comment c'est dirigé donc par... alors, je ne sais pas si on peut l'appeler chef d'orchestre, en tout cas chef painting.
c'est très joli, j'aime bien.
Donc, ce chef painting dirige une improvisation. Alors, pour le coup, est-ce que ça reste une improvisation pour les musiciens si d'un seul coup, elle devient dirigée?
Alors, oui et non, évidemment. Il y a certains signes du chef qui peuvent être des appels... à de la matière sonore qui a déjà été travaillée par avance, c'est ce qu'on appelle les palettes ou les punch palettes, c'est-à-dire que en répétition, l'ensemble des musiciens peut apprendre un passage ou utiliser, je sais pas, pourquoi pas, le début du Sacre du Printemps de Stravinsky, les quatre premières mesures, et à un moment donné, dans l'improvisation, le jour du concert, le chef peut faire appel à cette palette, à cette matière qui existe déjà pour la faire jouer. Mais en dehors de ça, les musiciens vont pas nécessairement savoir ce qui va se passer. Après, il y a aussi des pièces qui sont des pièces de sound painting, mais qui sont pensée et écrite où on sait qu'il y a différentes étapes et différents compartiments qui s'enchaînent. Et donc, on sait que là, on est dans la partie où, par exemple, il y a une intention dramatique et que tout ce qu'on va jouer est dans une intention dramatique. Après, on ne sait pas du tout ce qu'on va jouer et ce que le chef va nous demander. Mais on sait qu'on est dans la partie intensité dramatique, par exemple. C'est juste un exemple, ça peut être complètement différent. Mmh. Mais, donc, on surfe entre des choses qui sont écrites et des choses qui sont complètement de l'ordre de l'imprévisibilité. Ce qui fait qu'en fait, généralement, après avoir fait une heure de sound painting, on va se coucher parce que c'est vraiment très, très fatigant. C'est très, très éprouvant.
Ouais. Ces demandes, évidemment, pour le groupe, une disponibilité incroyable à être réactif à la proposition lancée par le chef d'orchestre. Donc, c'est dans l'énergie du groupe, c'est vraiment une mise à disposition, être vraiment disponible dans sa tête pour pouvoir répondre à cette demande.
Oui, et en même temps, avec ça, il y a aussi une part de désobéissance qui est inhérente dans cette musique et qui est très, très rigolote. C'est qu'en fait, il y a des gestes qui donnent des cadres aux musiciens, mais il y a des portes qui sont laissées ouvertes. Donc, par exemple, on peut prendre à peu près n'importe quoi, mais il y a par exemple un signe qui demande une valeur longue à un musicien. Il fait une valeur longue, mais il peut faire celle qu'il veut. Mmh. Et si les choses ne sont pas précisées, il peut même faire un double son ou un accord si les choses n'ont pas été décidées avant. Donc il y a une marge de manœuvre et on peut aller jusqu'à certaines fois à la limite de la désobéissance de ce que le chef a demandé. Ou des fois, on a mal vu le signe ou alors on se laisse emporter dans un truc et du coup, ça crée quelque chose que le chef n'attend pas. Et donc c'est là le chef peut utiliser ça pour répondre.
Mmh. Donc c'est un dialogue. Il y a aussi vraiment la notion de retour. Ah oui. La position du chef d'orchestre est importante, mais ce qu'apporte le groupe l'est aussi.
Oui, c'est aussi très fatigant pour le chef d'orchestre.
Bien, voilà. Donc je rappelle une information. Atelier d'un stage de sound painting le week-end du 14-15 mai à Louviers, gare aux musiques.
Alors moi, je voulais profiter qu'on ait Mathieu Tessonnière avec nous pour aborder d'autres thèmes, parce que durant la préparation de cette émission, nous avons beaucoup échangé. On a échangé quasiment une heure, hein, pour tout dire. Beaucoup de thèmes sont apparus. Moi, il y a des thèmes qui m'ont marqué, notamment dans votre parcours. Notamment, il y a deux grands axes, la musique amplifiée d'un côté et le jazz. Et à quel moment est-ce que s'organise le pas forcément le télescopage, mais l'enrichissement de l'un l'autre. J'avais des interrogations dans ce sens-là.
Oui, tout à fait. Alors, peut-être qu'on peut commencer par juste un tout petit rappel, parce que c'est vrai que pour les auditeurs, c'est pas forcément toujours très très évident ou très clair dans les appellations qu'on donne, musique amplifiée, musique actuelle, jazz, musique improvisée. Il y a quelque chose d'un petit peu nébuleux. Pour faire simple, on va dire qu'on est dans la grande famille de ce qu'on appelle les musiques actuelles.
Le jazz également, malgré ses sources
à l'intérieur, voilà, c'est ça. À l'intérieur de ce grand compartiment qui s'appelle les musiques actuelles, qui vient d'une erreur de traduction d'un courant de musique contemporaine américain qui s'appelle l'actual music. Enfin bon, ça c'est pas grave. À l'intérieur des musiques actuelles, on va avoir d'un côté le jazz et les musiques improvisées. Après, dans un deuxième temps, il y a ce qu'on appelle les musiques actuelles amplifiées. Donc là, on va ranger là-dedans tout ce qui est rock, reggae, métal.
Tout ce qui est musique amplifiée.
Oui, mais...
Pop. Non, pas forcément.
Mais pas la chanson et pas les musiques électroniques. Enfin, les musiques électroniques, oui, mais pas la... Par exemple, l'acousmatique ou
l'acousmatique, c'est-à-dire
la musique concrète, donc la musique à partir de supports déjà enregistrés.
Ou de bruit enregistré, voilà, ou de matière, bruit de feuilles.
Donc, voilà, donc jazz et musique amplifiée d'un côté. Jazz et musique improvisée, pardon. Ensuite, musique actuelle amplifiée. Après, on a les musiques traditionnelles, qui font aussi partie finalement donc des musiques actuelles. Et en quatrième, on a la chanson, qui n'est pas considérée a priori comme faisant partie des musiques actuelles amplifiées, qui est encore un autre créneau. Donc voilà, il y a quatre sous-familles.
Et alors, les ponts, comment ça s'organise? Parce que vous-même, on sent bien que vous faites partie de deux courants un petit peu. Et je ne sais pas s'il y a une préférence réellement, mais il y a la musique amplifiée d'un côté et le jazz et la musique d'improvisation.
Voilà, comment est-ce qu'au moment, ma préférence, elle est dans le fait de ne pas choisir.
Et d'aller entre les deux, de venir
en fait,
de nourrir l'un de l'autre.
Voilà, c'est ça. L'idée, c'est qu'en fait, j'ai fait du piano pendant une dizaine d'années, puis un jour, évidemment, en troisième, J'ai vu que quand dans la cour de l'école on avait une guitare et qu'on savait jouer Stairway to Heaven, ça plaisait vachement plus aux filles que quand on pouvait jouer du Schoenberg au piano. Donc bon, à un moment donné, il y a un certain pragmatisme qui s'est emparé de moi et je me suis mis à la guitare. Et au fur et à mesure, avec les rencontres, voilà, j'ai commencé à écouter des choses plus du rock. Et puis ce genre de musique. Et en même temps, je me suis ouvert à la basse parce que comme j'étais pas un guitariste émérite et que mes potes avaient commencé la guitare avant moi, il fallait un bassiste. Parce que le bassiste est toujours le guitariste qui joue moins bien, c'est bien connu. Donc du coup, je me suis mis à la basse. Et comme j'ai toujours beaucoup aimé le jazz, en même temps, je me suis intéressé au jazz. Et donc là, en arrivant au Havre pour faire mes études, je suis rentré au JUPO, qui est l'école associative jazz du Havre. Donc là, j'ai travaillé la contrebasse avec Bernard Cochin, vraiment un super contrebassiste. Et au fur et à mesure, voilà, j'ai continué à toujours avoir une activité de musicien dans les musiques actuelles, notamment avec un groupe qui s'appelle Marten, qui est un groupe de pop et de rock alternatif qui est sur Rouen. Et j'ai continué mon cursus de musicien de jazz au sein du conservatoire de Rouen jusqu'à obtenir mes diplômes et puis du coup à présenter des études pour être professeur diplômé d'État en jazz. Mais avec toujours ce parcours en parallèle de musique amplifiée avec différentes formations dans lesquelles je travaille, parce que pour moi c'est indissociable et j'ai pas vraiment envie de...
Mais est-ce que ça s'enrichit quand même, le fait d'avoir un travail plus jazz, plus classique?
Je vais pas vous répondre non.
Est-ce que ça se traduit réellement par un jeu différent?
Il y a un exemple que moi je trouve très intéressant, qui est dans les musiques amplifiées, dans le rock, on va avoir une approche du son de groupe qui va être obligatoire très rapidement parce qu'on joue avec des instruments qui sont amplifiés. Donc la question de l'amplification fait que très rapidement on est amené à se poser ce genre de questions. Dans le jazz, c'est quelque chose qu'on va quasiment jamais faire. Et bah du coup, le fait d'inverser un petit peu les deux choses, c'est vraiment très intéressant. Se dire que là où dans le rock on va laisser assez souvent le côté technique un peu de côté, et ce qui finalement fait aussi partie de l'esthétique des musiques actuelles, parce que mal jouer de la basse, pour faire du punk, c'est quand même essentiel. Parce que si tu joues bien de la basse et que tu veux faire du punk, ça sonne pas. Enfin, c'est quand même clair. Ça, il faut que tout le monde soit tout à fait au clair avec ça. Et par contre, un groupe de jazz qui répète régulièrement, mais qui prend pas le temps de réfléchir sur le son, sera un groupe de jazz qui il va vraiment manquer quelque chose et qui sera pas capable de s'adapter à un jazz club et à une grosse scène, et qui aura pas du tout cette appréhension de jouer avec des retours sur une grande scène ou jouer dans un petit club. Donc voilà, par exemple, par le biais de cet exemple, moi je sais que c'est vraiment des expériences enrichissantes.
Donc c'est vraiment complémentaire sur la présence scénique des groupes.
Par exemple, mais on peut aborder énormément de sujets à ce niveau-là.
Bien. Moi j'avais une question aussi, parce que quand on discutait ensemble là, pour préparer l'émission, c'est aussi, on sort chez toi le fort lien à la transmission. Enfin, tu joues dans des divers groupes, tu as sa formation de jazz, et puis aussi c'est l'idée de, encore une fois, de la rencontre, et puis d'échanger, de créer des zones perméables entre ton parcours de musicien et la transmission à d'autres. Donc c'est là encore pareil, on est sur une complémentarité, on est sur aujourd'hui le monde du 21e siècle, 20e et 21e, c'est le réseau, c'est le partage, c'est
Oui, alors évidemment dans cette idée de transmission, il y a un truc que j'essaye de corriger ou de soigner, qui est vraiment le fait que voilà, moi je me suis vraiment formé tout seul en écoutant les disques, et c'est une très bonne école aussi, je le pense, mais dans mon école de musique, quand j'étais petit, il n'y avait pas de professeur de rock ou de professeur de jazz. Et c'est vrai que c'est des choses qui me manquaient, parce que si on n'a pas des parents qui sont, ou des gens dans notre entourage très proche qui sont vraiment très avertis sur ces domaines-là, l'info, on va la chercher tout seul. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un petit peu plus fastidieux. Alors après, ça devient forcément plus authentique et beaucoup plus personnel. Mais il y a quand même quelque chose qui peut être chouette dans le fait d'avoir un médiateur et quelqu'un qui peut un peu passer le relais et orienter certaines choses. Après, et c'est vrai qu'une fois qu'on met le doigt dans la pratique de la pédagogie, on se rend compte de l'immensité du champ et des questions que ça pose. Moi, ça m'intéresse vraiment beaucoup.
Donc intéressante. Bien, je vous propose, Mathieu Tessonnière, de nous présenter, de lancer votre choix musical, Devo, le titre, et après vous nous en parlez ?
Oui, on va écouter donc un morceau de Devo qui s'appelle Uncontrollable Urge. Voilà, on vient donc d'écouter Uncontrollable Urge du groupe Divo.
Alors, pourquoi ce choix ?
Enfin,
en même temps, il y a des tonalités, des sons qui font écho à ce qu'on s'est dit.
Oui, tout à fait, parce que bon, c'est un morceau dans lequel il y a plein d'influences. C'est un morceau de la fin des années 70 qui donc fait partie de ce qu'on appelait le post-punk. C'est-à-dire le punk, mais fait par des gens qui avaient envie de faire des trucs où c'est pas forcément toujours à quatre temps, ou en tout cas, des fois, c'est un petit peu plus poussé et où il y a des parties un petit peu différentes que juste des croches qui s'enchaînent comme chez les Sex Pistols. Ce qui n'est pas forcément moins bien, ce qui est juste différent. Moi j'ai choisi ce morceau parce que vraiment d'abord je l'aime beaucoup, il y a une énergie incroyable, et puis c'est le premier album de ce groupe qui s'appelle Divo et qui a été produit directement par Brian Eno, qui était un très très grand musicien, musicologue et bidouilleur du 20e siècle, et qui a travaillé aussi bien dans le champ des musiques contemporaines avec Philippe Glass quand on parlait des minimalistes que Bowie. Donc c'est quelqu'un de très important pour moi, dans la mesure où en plus il disait toujours que ce qui était intéressant en musique c'était l'erreur, et c'était le fait de se planter et comment on utilisait l'erreur. Et donc il était à la recherche de ça aussi avec les machines.
Ce qui peut être aussi une base d'improvisation.
Complètement.
Ben, l'erreur peut être vraiment le point de départ d'une improvisation.
Oui, et d'une certaine manière, ce que j'essaye d'enseigner des fois aux élèves, c'est cette capacité à rebondir sur l'erreur qu'on fait, pour en faire quelque chose de volontaire, ou en tout cas faire croire qu'on l'a fait exprès. Et ce qui est vachement pratique, par exemple, quand on joue une pièce en classique de mémoire, et quand on se plante sur une note, si on a fait pas mal d'impro, on arrive à beaucoup plus faire croire qu'on l'a fait exprès, et à faire comme si c'était écrit dans la musique. Donc du coup, il y a aussi ce travail-là avec les élèves peut vraiment les aider sur le répertoire, dans le fait d'avoir une détente et un regard un tout petit peu plus distancié, de recul et distancié sur le répertoire et sur l'importance de bien jouer la note, ou alors l'importance de bien jouer ou de jouer tout court.
Et justement, je rebondis sur ta classe de musique improvisée et amplifiée, parce que je crois que tu cherches justement à l'asseoir, à l'ancrer dans un cursus, on va dire, un peu plus officiel, au niveau du CRD, tu peux nous en dire deux mots.
Pour l'instant, on était sur la base d'atelier avec une participation complètement volontaire des élèves qui engageaient à rien, qui est juste validée dans le cursus des études comme une pratique d'ensemble parmi les autres. Et là, l'idée, c'est à partir de la rentrée, de monter ce qu'on appelle un département musique actuelle, donc avec, comme on l'a dit tout à l'heure, un pôle jazz et musique improvisée et un deuxième pôle musique amplifiée, où donc là, les élèves viendront pour un cours de formation musicale particulièrement en relation avec cet univers-là et ces esthétiques-là, la codification écrite n'est pas la même, etc. Un cours de culture, un petit atelier donc qu'on appelle un atelier combo, qui est une pratique d'ensemble 5-6, type groupe, et puis un grand ensemble, plus pour le jazz un big band, et puis pour les musiques amplifiées, un truc qui n'existe pas vraiment, mais qui pourrait ressembler un peu à ce que peut faire le surnatural, par exemple.
Ouais, un collectif.
Oui.
Bien. Eh bien, petite virgule.
Eh bien oui, 73 avant Jésus-Christ, Rome en pleine gloire.
Oui, mais alors, péplum lyrique à la Madeleine avec Spartacus. C'est un théâtre, alors c'est la compagnie du théâtre de la Licorne, eux qui sont vraiment, on va dire, un des must en théâtre d'objets et fabrication à partir de matériaux de récupération, de ferraille, où là ils nous créent des univers proprement incroyables. Et là, ils ont décidé de s'attaquer, c'est surtout Claire Danquan, hein, la metteuse en scène de la compagnie, de s'attaquer à l'histoire de Spartacus, cet esclave romain qui a érigé la révolte, la première révolte des esclaves en l'an 73. Donc, voilà, faut s'attendre à ce que la halle du marché de la Madeleine soit complètement réinvestie avec de la terre battue, des gradins, et où va apparaître un éléphant de fer et de feu d'à peu près 1m50 à 1m80, où des petits soldats à l'échelle, je dirais, miniature, côtoieront cet animal mécanique, et le tout orchestré par des comédiens, mais également deux chanteurs lyriques qui accompagneront cette histoire. C'est un événement, un très très fort et beau spectacle. On en ressort avec des images incroyables, avec une énergie aussi de, bah, propre à l'histoire. Hein. Alors, on a peut-être des images de Spartacus, de films donc, des années 60, notamment avec... j'oublie son nom, mais il va me revenir tout à l'heure.
Je ne l'ai pas non plus.
Personne ne peut m'aider, c'est pas grave, ça reviendra après. Donc non, vraiment, c'est donné jeudi 12 mai et vendredi 13 mai sous la halle du marché de la Madeleine. C'est un spectacle que je conseille à voir en famille, évidemment, à partir de 6 ans. On vit une aventure. Une fois qu'on est dedans, on est dedans. On ne peut plus sortir. On est complètement happé par cette histoire ancienne et pourtant universelle.
Très bien. Nous avions
voilà,
également...
Voilà, nous faisons court et efficace vu les quelques minutes de retard que nous avons pris dans l'émission.
Nous avions une rectification, un erratum
oui,
à proposer.
Oui, rectification, une erreur. Hein, j'ai commis une erreur en disant que le surnaturel et le regroupement des ateliers Sound Painting aurait lieu le dimanche. Non, c'est toute la journée du samedi 28 mai. Et donc à 18h, c'est le final du Sound Painting et du Surnatural Orchestra qui se donnera au Jardin Public dans le cadre, évidemment, du Jardin des Cultures. Et dimanche, le concert de Claude Egea et du Big Band également du CRD d'Evreux. Entre les juniors et
voilà,
et le
big band
junior et le big band, voilà, des professeurs donc qui seront donnés autour d'un pique-nique au jardin. Et pour finir avec l'agenda, on retrouve donc évidemment l'ensemble de la programmation de l'oreille du cyclone hein, sur le site, hein, je rappelle, du 18 au 29 mai. Mais avant, une petite note de jazz autre avec la voix de Stacy Ken qui sera présentée le mardi 10 mai au Cadran à Évreux, une programmation scène nationale Évreux-Louviers. Donc là, répertoire, hommage à la chanson française pour cette artiste américaine. Spartacus, donc le 12 et le 13 mai, sous la halle du marché de la Madeleine. Puis, une minute encore, un très beau, très fort spectacle de Thomas Germaine sur les textes de Charlotte Delbault. Donc, les 16 et 17 mai, à la chapelle de la Cave Boudin, Évreux. Et puis, également... un spectacle le 11 mai à voir en famille qui est l'ours donné par le Claire alors là je disais tu peux me compléter
la compagnie Claire de Lune.
Claire de Plume qui sera donnée, donc qui est en résidence hein, actuellement à l'Abordage.
Qui était en résidence la semaine dernière à l'Abordage et qui vient de terminer son nouveau spectacle, L'Ours, l'Enfant Bulle,
donc mercredi 11 mai à l'Abordage.
Ce soir, à la Guerre aux Musiques, donc salle de musique actuelle de Louviers, concert de orchestreur et nouvelles nocturnes de groupes dont on a plus à parler localement.
Oui, et dont on a parlé dans les précédentes émissions.
Le festival également Boîte à Zik qui propose des concerts donc du 4 mai, c'est passé jusqu'au 8 mai dimanche qui arrive, tous les soirs sur la place derrière, à côté de la mairie.
Le Grand Carrefour.
Merci. Voilà, pour les sorties, sorties dont nous vous parlons bien entendu, il y en aura
d'autres. Quelques sorties que nous avons retenues parce que, encore une fois, l'agenda du mois de mai est chargé. Il y a de quoi de sortir tous les soirs, là, je crois, sur Évreux, Louviers et aux alentours. Un petit tour vers la Chine.
Eh bien, je propose que nous concluions l'émission et que nous laissions donc nos auditeurs avec cette musique avant de rejoindre la programmation de Principe Actif. Mmh. Alors, nous rappelons le prochain rendez-vous de Scène de Vie et on conclura par cette petite chronique. Si
alors,
ça te va bien, Nathalie.
C'est parfait. Le prochain rendez-vous, et ce sera notre dernière émission hein, de la saison, rendez-vous vendredi 1er juin, où là, émission surprise, comme ce sera la dernière.
Et de bonnes surprises.
J'espère.
Bien entendu. Et toujours dans cette rubrique Musique du Monde, aujourd'hui nous voulions faire un tour du côté de la Chine avec l'artiste Jiang Nang, qui est une interprète, une auteure-interprète chinoise qui sort du conservatoire de Shanghai, qui réside maintenant en France où elle propose un bon nombre de concerts. Sa musique s'inscrit entre tradition et puis réadaptation des choses, un petit peu comme nous évoquions tout à l'heure avec Mathieu, un petit peu le lien entre la tradition, enfin les choses plus anciennes et puis les choses plus actuelles. Elle propose des concerts en sitar guzheng. Alors la sitar guzheng, c'est une sitar table qui est un instrument vieux de 2500 ans à peu près. C'est une sitar à 21 cordes avec un chevalet mobile, ce qui permet d'avoir beaucoup de variations. Ça se joue au doigt. Elle est utilisée en Asie, au Japon, en Corée, au Vietnam et en Chine. Le morceau choisi aujourd'hui s'appelle Jiao Shuang Yiyu, ce qui veut dire en traduction française « Derrière la fenêtre, dans la nuit, la pluie crépite sur le feuillage ». Ce titre était en version originale en quatre symboles chinois. Nous vous laissons là-dessus.
Belle fin d'émission.
Et au mois prochain.
Et au mois prochain. Thank you.